19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de Cash sur table. Ce soir, la sécurité dans l'espace public qui reste une priorité majeure à Bruxelles, notamment face aux menaces persistantes. Alors, faut-il maintenir ou renforcer la présence militaire dans les rues ou privilégier des solutions civiles? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans Cash sur table avec Marc Jean-Geysels, député PS au Parlement bruxellois et président de la Commission des Finances. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous également Aline Godefrin, députée MR bruxelloise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer tout d'abord, si vous le voulez bien, avec un constat et le contexte avec vous, Marc Jean-Geysels. Justement, quel est votre constat actuel sur la situation sécuritaire d'une manière générale dans notre capitale?
Mais je crois que pour l'instant, il y a vraiment un très gros point noir avec tout ce qui est le narcotrafic et les tensions extrêmement violentes qui sont apparemment qui seraient à l'origine. Ce qui serait à l'origine, ce seraient les luttes de partage de territoire. Et donc là, on a vraiment des quartiers dont la vie des riverains est en permanence polluée par des tirs, par des luttes armées. Et par une criminalité extrêmement violente auquel la police essaye de faire face, mais où manifestement il manque de moyens suffisants. Et donc c'est extrêmement difficile de juguler cette situation.
Justement, la présence militaire est-elle aujourd'hui, disons, justifiée selon vous? C'est nécessaire?
Alors je pense que l'intérêt de la présence militaire, c'est uniquement, pour moi, elle doit être utilisée sur des postes fixes, c'est-à-dire des surveillances d'ambassades, de synagogues, de mosquées, d'écoles, de bâtiments publics, des ambassades comme par exemple l'ambassade de Russie, de manière à libérer des forces de police qui doivent être injectées dans la lutte contre le narcotrafic. Mais donc il faut renforcer les équipes de terrain, mais il faut aussi renforcer les équipes de la PJF, parce que ce narcotrafic ne concerne pas uniquement Bruxelles. Il y a des lieux de violence à Bruxelles qui trouvent leur source dans le narcotrafic, mais c'est un narcotrafic où les racines sont bien plus profondes et s'étendent bien au-delà des frontières belges.
Mmh. Aline Godefrin, justement, et vous, quel regard vous portez justement sur la situation sécuritaire dans ce qui est présenté comme la capitale de l'Europe, quelque part?
Il y a une situation sécuritaire extrêmement tendue pour le moment. Je pense que la population, singulièrement à des quartiers du nord de Bruxelles, peuvent attester d'une montée des violences liées au trafic de drogue. Il y a quand même eu presque une centaine de fusillades en 2025. C'est un chiffre record qui fait froid dans le dos. Et je pense que cette insécurité doit être adressée. Et les militaires viennent quand même en renfort de la police, c'est une bonne nouvelle. Alors il y a bien sûr les missions de surveillance statique des lieux sensibles, mais il y a aussi des patrouilles mixtes qui sont prévues avec la police, notamment la police des chemins de fer. On sait que les gares sont des lieux aujourd'hui qui sont mal fréquentés. Il y a aussi les stations de métro. Il y a quand même eu beaucoup de fusillades qui se sont passées devant des stations de métro parce qu'on sait que c'est des points de deal. Je pense que c'est une nouvelle positive pour Bruxelles. Alors, on ne remplace pas la police par des militaires, mais on vient en tout cas renforcer une présence de l'autorité dans l'espace public qui aura un effet positif. On a d'ailleurs un retour d'expérience puisque cette mesure avait déjà été appliquée post-attentat. Et les chiffres étaient clairs et nets, c'est-à-dire qu'il y avait une baisse de la criminalité grâce à la présence des militaires dans les rues.
Alors, selon vous, est-ce que la police, les forces de police sont suffisantes pour assurer la sécurité sans l'armée?
Alors, les forces de police, évidemment, font un excellent travail. Maintenant, il y a aussi des analyses qui montrent qu'il y a un risque assez élevé sur des lieux sensibles. On le sait, il y a un contexte international qui est très tendu, avec des conflits au Proche et au Moyen-Orient. Il y a eu un attentat à Liège contre contre une synagogue. Et donc, oui, il y a des lieux sensibles où il faut renforcer la sécurité et la présence. Mais il y a aussi une difficulté, de manière générale, et qui ne date pas d'hier, c'est que, voilà, il y a des cadres qui restent des places à la police, qui restent des cadres, pardon, le cadre du personnel qui reste incomplet. Et donc, oui, on peine à recruter, en fait, on peine à trouver des personnes qui ont la vocation pour devenir agent de police. Mais il y a aussi une difficulté qui est l'accessibilité au métier d'agent. Et là, la région a vraiment un rôle à jouer. On a un nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place. Il va renforcer le campus avec une vraie école des métiers de la sécurité. Et ça, c'est un point positif aussi pour Bruxelles, parce qu'on va pouvoir remplir davantage les cadres de la police, donc ils seront plus nombreux, puisque aujourd'hui le cadre est financé, mais il n'y a tout simplement pas de candidats. Mais on pourra aussi avoir une police de proximité qui compte plus de Bruxellois, et plus de Bruxellois ou de Bruxelloises qui connaissent les quartiers.
Vous avez évoqué la situation internationale assez compliquée, Marc-Jean Geysels. Est-ce que la menace terroriste est toujours au même niveau qu'avant, ou est-ce qu'il y a un changement ?
L'OCAM la fixe au niveau 3. Mais c'est vrai que c'est une période tendue. Il y a eu quand même des alertes, à mon avis, plus que sérieuses. L'attentat sur la synagogue de Liège, il y a eu des problèmes en Hollande. Il y a eu assez récemment, je crois que c'est il y a 2-3 jours, une banque américaine à Paris. Heureusement, ça a l'air d'être très amateur comme type d'attaque. Ça, c'est la chance, peut-être. Mais c'est vrai que le climat international fait qu'on pourrait toujours avoir un passage à l'acte, même de quelqu'un d'isolé. Et ça représente quand même un risque supplémentaire qu'en période, je dirais, plus calme.
Autre question, Marc-Jean Geysels. Quel rôle jouent exactement les militaires dans les rues aujourd'hui, selon vous ? Stratégique ou aussi dissuasif ? Juste le fait de voir des militaires, ça a son impact ?
Mais moi, j'ai toujours été favorable aux militaires, mais encore une fois, et j'insiste bien, sur les stations fixes. Donc, je les ai utilisées quand j'étais bourgmestre, notamment pour les institutions juives dans ma commune, et ça se passait vraiment très bien. Et là, ils me permettaient de libérer des policiers qui étaient réaffectés à des tâches de police, parce que c'est vraiment des métiers totalement différents. Je pense que la surveillance d'un bâtiment, les militaires le font vraiment très bien. Ça fait aussi partie de leur formation, puisque ils ont l'habitude, par exemple, de surveiller une caserne. Entre surveiller une caserne et une ambassade, il n'y a pas une grande différence. Les policiers, eux, ils sont plutôt drillés à du travail judiciaire aussi, de maintien de l'ordre, de surveillance ou de travail de proximité pour la police de proximité. Police de proximité qui, soit dit en passant, tout le monde nous dit qu'elle est vraiment essentielle, mais moi je la vois se réduire comme peau de chagrin depuis 25 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il faudrait une norme d'un agent ou d'un inspecteur de quartier par 4000 habitants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la manière dont les gens vivent, il faudrait un inspecteur de quartier par 2000 habitants. Mais il faudrait vraiment le connaître. Quand je discute, que ce soit avec n'importe quel Bruxellois dans n'importe quelle commune, il y a des communes qui sont un peu plus avantagées à ce niveau-là, les gens ne connaissent plus leur inspecteur de quartier. Or, il est essentiel, même dans la lutte contre la grande criminalité, contre le narcotrafic. Je me souviens qu'il y avait des inspecteurs de quartier chez nous qui avaient, uniquement à l'odeur en passant dans la rue, parce qu'ils étaient très attentifs, permis de découvrir une plantation de cannabis dans un entrepôt de 300 ou 400 mètres carrés. Donc c'est vraiment une plantation assez importante. Mais tous ces relais, toute cette remontée d'informations vers les enquêteurs ou les gens qui luttent contre le trafic, on ne les a plus, parce qu'il n'y a plus suffisamment d'inspecteurs de quartier qui sont affectés à d'autres tâches, notamment, par exemple, des transferts de détenus, alors que ce n'est vraiment pas leur rôle. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit au niveau du service de la DAB ou de la DAS qui s'occupe des transferts de détenus et qui n'est pas suffisamment alimenté par le fédéral. Tout ça est le résultat de coupes financières qu'on a fait au niveau du gouvernement fédéral, des gouvernements précédents, et c'est le manque d'investissement dans la fonction publique.
Aline Godefrin, je me tourne vers vous justement sur cette question, votre sentiment, votre regard sur cette disparition, entre guillemets, de la police de quartier.
Alors la police de quartier, elle est encore là, il n'y a pas vraiment de disparition, mais je pense que la police est surtout occupée à toute une série de tâches qui fait que parfois, elle est aussi occupée par une lourdeur administrative. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir résoudre. C'est aussi le sens qu'on veut donner à la fusion des zones de police, c'est-à-dire essayer de rationaliser une série de tâches pour pouvoir avoir plus de présence policière en rue, c'est-à-dire permettre aux agents de réellement exercer leur métier et les libérer de certaines tâches administratives par une meilleure organisation. Mais il y a aussi tout le projet de e-policing qui marche assez bien. Donc maintenant, on encourage vraiment les personnes à prendre contact pour des choses plus simples, pour ne pas faire la file, prendre contact via Internet. Et bien sûr, ils voient un agent. Je veux dire, vous prenez un rendez-vous, donc vous avez un contact en visio. Ça, c'est une évolution technologique plutôt positive pour libérer des capacités sur le terrain. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a eu des choix, parce qu'on parle souvent de la sécurité en disant, voilà, il n'y a que le fédéral, ou il y a un peu la région aussi. Il y a surtout les bourgmestres. Là, il y a quand même des choix qui ont été faits ces dernières années qui ne sont peut-être pas le bon. Je pense notamment à la zone de police midi qui a quand même supprimé, par exemple, les brigades de proximité, les fameux Comen. Est-ce que c'était vraiment judicieux ? Et quand même des policiers qui ont fait état après d'inquiétudes et même ils ont directement fait le lien avec les nombreuses fusillades qui disaient, nous, on connaissait les points de deal, on connaissait les dealers et on arrivait à avoir un résultat sur le terrain par cette action de proximité qu'on a supprimée. Et donc ça, je pense qu'il faut aujourd'hui se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus efficace sur le terrain en termes de proximité ? Je crois qu'il y a une série d'outils qui ont fait aussi leurs preuves, comme les antennes LISA. C'est des services qui concentrent à la fois services sociaux, services de la propreté et police de quartier. Ça, c'est quelque chose qui est financé en partie par la région, mais toutes les communes ne se sont pas saisies de cet outil, pourtant qui fonctionne sur le terrain. C'est les fameuses antennes de proximité qui s'appellent les antennes LISA. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un tri chirurgical dans les priorités et renforcer la sécurité par une présence policière de proximité qui soit davantage présente sur le terrain, ça c'est une certitude.
Vous avez évoqué donc les communes. Marc Jean Geysels, votre avis sur la fusion des polices, on en a beaucoup parlé, est-ce que c'est une fausse bonne idée ?
C'est une fausse bonne idée, moi j'en suis vraiment convaincu et j'ai quand même une expérience de terrain depuis, je le rappelais en commission, je suis désolé de jouer le vieux, mais en 1987, quand j'étais encore étudiant en criminologie, j'ai fait un stage à la police de Forêt. C'était la police communale. Il y avait une connaissance du terrain. Tous les agents, il y avait à peu près 180 ou 200 policiers, tous les agents connaissaient parfaitement le terrain, connaissaient leur commune, connaissaient les habitants de leur commune, savaient comment intervenir en fonction de l'incident dans tel ou tel café, ils savaient comment intervenir. Ils allaient quelquefois en renfort sur Saint-Gilles ou sur Anderlecht. Et ils me disaient déjà à l'époque, quand on arrive à Saint-Gilles ou Anderlecht, on doit intervenir d'une manière différente, on n'a pas toujours l'habitude et ça ne se passe pas toujours bien. On nous a vendu les zones de police en disant, vous allez voir, on va faire des économies d'échelle, on va avoir une police de proximité, parce qu'avec les économies d'échelle, on pourra investir plus de gens sur le terrain. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Mmh. On a une disparition totale de la police de proximité. On a, et c'est avec Charles Piquet et moi-même qui avons remis les cobanes sur la zone midi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a voulu recréer ? On a voulu recréer une police qui connaissait vraiment le terrain, et qui, en étant présent en permanence sur le terrain, embêtait les petits délinquants. Parce que c'est ça, en fait. Les dealers, vous n'allez pas régler ça au niveau communal. Vous allez juste arriver à les embêter et leur empêcher de faire leur job et d'aller le faire éventuellement ailleurs, dans des zones où il y a moins d'habitants.
Je crois que le MR a un autre regard.
Écoutez, non, j'ai pas un autre regard. Je constatais simplement que, justement, les fameux Coben ont été supprimés. Et ça, je pense que c'est sans doute une erreur stratégique. On parle beaucoup de police de proximité. Mais je pense que le monde a changé aussi. Voilà, 1987, personnellement, c'était l'année de ma naissance. Mais je crois que Bruxelles est devenue, entre-temps, une ville beaucoup plus cosmopolite. Et donc, le travail des agents de quartier est plus compliqué. Et là, je crois que les autorités administratives, et singulièrement les communes, ne jouent pas nécessairement toujours leur rôle. Je vais prendre un exemple. Donc, post-attentat, le plan Canal, par exemple, visait à ce qu'on puisse vérifier les adresses. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, notamment des narcotrafiquants, qui viennent s'installer à Bruxelles parce qu'ils savent que c'est extrêmement facile de vivre en sous-marin, c'est-à-dire sous les radars. On ne vérifie pas votre adresse. On ne vérifie pas si vous avez des revenus, si vous avez une activité. Et ça, typiquement, c'était des mesures qui étaient dans le plan Canal, c'est-à-dire, à un moment donné, vérifier aussi qui se trouve sur la commune, voir s'il y a des activités criminelles en cours. Ça, par exemple, une commune comme Molenbeek, dirigée par le PS, n'en voulait pas. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui interpelle par rapport aux moyens qu'on peut déployer pour améliorer la sécurité à Bruxelles.
On revient aux militaires, je reste avec vous.
Peut-être une réponse. C'est vrai que 1987, ce n'était pas la même situation. D'abord, on n'avait pas 1 200 000 ou 250 000 habitants. Et proportionnellement, on avait plus de policiers. Parce que depuis la réforme des polices qui allait régler les problèmes, on n'a plus investi. Au contraire, le fédéral a diminué les enveloppes. Le fédéral, et là, parce qu'on essaie d'attaquer les bourgmestres socialistes, le fédéral, on n'a plus eu, le Parti socialiste n'a plus de ministre de l'Intérieur depuis 1981.
Vous étiez presque
après, c'était des ministres libéraux, des engagés, des CDNV ou des OpenVLD. Donc, ces gens ont coupé les enveloppes et on a un manque de policiers. Aujourd'hui, Bruno Calis dit qu'il manque entre 800 et 1000 policiers à Bruxelles. Alors, on a une ville cosmopolite. C'est donc pour ça que l'agent de quartier ou l'inspecteur de quartier doit justement être particulièrement disponible, parce qu'il va en plus être confronté à des problèmes de langue. Des gens qui viennent de Pologne, qui ne parlent pas encore bien le français, qui viennent d'autres de Roumanie, d'Espagne, etc. Et il doit pouvoir justement être disponible pour faire toutes ces enquêtes de quartier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque manifestement de forces vives dans la police parce qu'ils sont affectés à d'autres tâches.
Alors, si vous voulez...
Et la situation de Bruxelles fait qu'on a en plus des apports de dossiers qui ne devraient pas être gérés par Bruxelles. Mais comme le point de naissance ou le... Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est arrêté alors qu'il doit normalement être en prison, pour lequel il y a une apostille ou un mandat d'arrêt. Il est arrêté à Zaventem, on va le déférer au parquet de Bruxelles. Et c'est les polices zonales qui vont s'occuper. S'il doit faire opposition à Anvers, à Bruges ou à Arlon, c'est les polices zonales qui vont aller le conduire à chaque comparution dans ces palais de justice. Ce n'est absolument pas normal. Mmh. Et Bruxelles est en fait le réceptacle de toute une série de problèmes qui ne concernent pas directement les Bruxellois.
1987, bientôt 2027, Bruxelles a changé effectivement.
Bruxelles a changé, et surtout je pense qu'on doit se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, nous les politiques, pour améliorer l'état de la sécurité à Bruxelles. Et là je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle, parce que okay, on peut remonter loin dans le passé. Je crois que le Parti socialiste a quand même participé à quasiment tous les gouvernements fédéraux ces dernières décennies. Effectivement, là on va se rejoindre sans doute avec M. Geysels, c'est le fait que la norme de financement de la police n'est plus adaptée. Et là, il y a une révision qui est en cours, qui va être déposée sur la table du gouvernement fédéral. Donc c'est le ministre Quintin, ministre libéral, qui pousse cette réforme pour refinancer de manière beaucoup plus structurelle, c'est la fameuse norme CUL, KUL, la police. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est des moyens supplémentaires qui vont venir. Ils seront concomitants avec la fusion des zones de police, où il y aura aussi une enveloppe de 66,5 millions qui sont prévus, en plus de la nouvelle norme. Et là, c'est quelque chose qui va permettre quand même à la police d'avoir des moyens supplémentaires, singulièrement pour Bruxelles, parce que c'est vrai que les moyens pour une grande capitale n'étaient plus adaptés. Donc là, je pense qu'on se projette déjà plus positivement dans l'avenir. Et puis, il faut aussi absolument rendre la fonction de police beaucoup plus attractive. Aujourd'hui, on l'a dit, oui, il manque des policiers, mais les gens ne s'engagent plus. En fait, il y a des postes qui sont ouverts, ils ne sont tout simplement pas pourvus. Et là, la région aurait dû, en fait, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, aurait dû veiller à ce qu'on puisse recruter, former des jeunes à l'Académie de police, et le travail n'a pas été fait. C'est une mesure qui avait été prise par Rudy Verhoerst, d'essayer de faire des préformations, de préparer les candidats à réussir l'examen d'entrée à la police. Et en fait, cette mission très importante n'a pas été assurée par l'administration, mais a été déléguée à des SBL. Et ça a été un flop total. Donc, on l'a arrêté au bout de 3-4 ans, parce qu'il y avait à peine 1% de taux de réussite. Et là, je pense que le pouvoir régional n'a pas été au rendez-vous. J'espère très sincèrement qu'il le sera ces prochaines années. Moi, je crois beaucoup en la capacité de cette nouvelle majorité à se saisir de ce point et à engendrer des résultats.
Alors, rapidement, juste avant la pause, j'ai vu que Marc, Jean Geysels, vous avez un peu hoché la tête.
Mais oui, parce que je pense que l'annonce de la fusion des communes, d'abord, on prend le problème à l'envers. Il faut d'abord refinancer et voir ce que ça donne. Or, on nous dit qu'il faudrait au moins 80 millions. On est déjà à une enveloppe de 65. Donc, on a déjà un déficit de 15 millions. Moi, je discute avec beaucoup de policiers. Il y en a qui prennent leur pension plus tôt parce qu'ils disent « Moi, je ne sais pas dans quoi je vais aller. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans telle commune. Demain, je vais dans une grande zone. On va me dire « Tu vas aller travailler à l'autre bout. » Mais moi, je vais en train, j'arrive là, j'ai des horaires impossibles. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent pour patrouiller, qui viennent d'Arlon, et qui sont à 7h du matin, ils retournent à 19h, et le lendemain, ils remontent de nouveau, et ils viennent en voiture. Et demain, on va les changer, on va leur dire, mais tu vas aller faire un maintien de l'ordre, alors qu'ils n'ont pas l'habitude, ils vont changer de quartier, ils vont patrouiller dans des rues qu'ils ne connaissent pas, c'est totalement inefficace. On va détruire totalement. Le procureur du roi l'a dit, ce n'est certainement pas dans une situation de crise comme on connaît aujourd'hui, qu'on fait une telle réforme. Et vous avez M. Oui. Quintin, qui a sa feuille de route, qui malheureusement, à mon avis, ne connaît pas encore grand-chose au niveau de la gestion de la police, qui va bille en tête. Les syndicats policiers l'ont dit, d'ailleurs, ils ont quitté une réunion en disant discuter avec lui ou se taper contre le mur, c'est la même chose. Tous les bourgmestres lui ont dit, ne faites pas ça, et certainement pas maintenant, et continuez à le faire. Donc voilà. Je suis vraiment très inquiet.
On marque juste une courte pause et on se retrouve juste après pour parler justement du déploiement militaire. Pour ou contre, à tout de suite.
19h-20h, Caisse sur table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités, Aline Godefrain, députée bruxelloise et maire, et Marc-Jean Geysels, député PS au Parlement bruxellois. Aline Godefrain, les caches maintenant, si vous voulez, caches sur table, êtes-vous favorable au maintien du déploiement militaire, oui ou non, dans les rues, et pourquoi, concrètement ?
Concrètement, oui, je suis favorable. Après, on espère toujours, évidemment, que ce soit pour une période temporaire. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de renforcer la sécurité de cette manière-là. Je pense qu'ils vont amener une forme d'apaisement. Les patrouilles mixtes, c'est une bonne idée. Moi, j'utilise énormément les transports en commun. Je passe beaucoup par la gare du Midi. On connaît quand même tous les problèmes de consommation aussi, de drogue, de deal, les vols à la tire aussi. On en parle, on n'a pas encore parlé, mais voilà, je pense que cette présence en patrouille mixte aura un effet positif, j'en suis convaincue. On l'a déjà vu en fait post-attentat. Moi, j'habite le centre-ville de Brouckère. L'ambiance avait complètement changé. Il y avait beaucoup moins de criminalité quand ils étaient en surveillance statique.
Marc-Jean Geysels, justement, quels sont les avantages principaux d'une présence militaire visible dans les rues ?
Mais moi, je ne suis pas favorable à des patrouilles mixtes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de base légale suffisamment stable et il y a quand même une difficulté. Si par exemple il y a une rébellion, qu'est-ce que fait le militaire ? Est-ce qu'il peut intervenir pour aider à maîtriser l'individu ou pas ? Comment ça va être apprécié, etc. Il n'a pas de compétences de police, donc il ne peut pas faire un procès-verbal, par exemple. Donc ça, c'est des difficultés. Par contre, ça ne me dérange pas sur les postes fixes, encore une fois, ambassade, école, lieu de culte, cela. Et les policiers qu'on libère de cette tâche, ceux-là, on doit les réinjecter dans les services de police. Et voilà. Mais le militaire en rue, c'est le constat d'un désinvestissement total dans nos forces de police. Et ça, c'est quand même regrettable. Et ça, je suis désolé, mais ce sont des ministres de droite qui ont pris cette décision parce qu'ils ont laissé aller le service public. Et c'est vrai aussi dans la magistrature. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles. Pendant 3 ans, on n'a pas eu de procureur du roi en titre. Maintenant, tout le monde se plaît à dire qu'on a un excellent procureur du roi, mais qu'est-ce qu'il dit ? Donnez-moi des moyens. Aujourd'hui, il y a des tas de choses où il est extrêmement difficile à avancer dans les dossiers parce qu'il manque de moyens. Il faut investir. Pour la sécurité des Bruxellois, il faut investir. Et le fédéral désinvestit à Bruxelles. Et quand on fait des transferts, c'est les policiers de la PJF qui vont renforcer Anvers. Mais à Bruxelles, on renforce très très rarement les zones de police. Les zones de police, ça c'est le système à l'envers. Alors que c'est le fédéral qui doit venir au secours des zones de police. À Bruxelles, c'est les zones de police qui ont renforcé le fédéral. Ça ne va pas.
Aline Godefrain n'est pas tout à fait d'accord.
Non, je dois réagir parce qu'on a un nouveau gouvernement fédéral depuis presque 2 ans maintenant qui met des moyens substantiels pour renforcer la sécurité à Bruxelles. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des moyens supplémentaires. Il y a un plan Grande Ville qui donne des moyens supplémentaires, notamment à Bruxelles. Il y a un plan caméra. Bruxelles va recevoir un peu plus de 7 millions d'euros. Normalement, les communes auraient dû placer un certain nombre de caméras. Voilà, une fois de plus, c'est un choix. Toutes les communes n'ont pas fait le choix de la sécurité. Donc, le fédéral vient vraiment maintenant en soutien de Bruxelles. Il y aura la révision de la norme de financement de la police qui va donner des moyens supplémentaires. On a parlé de la fusion des zones de police. Donc, je ne peux pas laisser dire ça. Vous parlez beaucoup, M. Geysels, de la police judiciaire. Mais justement, là aussi, le fédéral et le ministre Quintin a veillé à renforcer la capacité d'enquête et le nombre d'inspecteurs pour notamment faire le suivi des enquêtes concernant le trafic de drogue. Et là, il y a quand même quelques dizaines d'enquêteurs supplémentaires qui ont été libérés pour Bruxelles. Donc je sais que vous êtes dans l'opposition au fédéral.
C'est un nombre totalement insuffisant. Le procureur du roi le dit chaque semaine.
Peut-être qu'on peut toujours juger que c'est insuffisant, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train de réinvestir massivement dans la sécurité, et singulièrement à Bruxelles.
Vous réinvestissez peut-être massivement, je trouve que le terme est un peu excessif. On comble à peine
moi, je pense
les défaillances du fédéral des 20 dernières années.
Oui, mais vous étiez aussi autour de la table au fédéral, et le PS n'a pas particulièrement plaidé pour renforcer la sécurité à Bruxelles. Dans la période post-attentat, il y a même beaucoup de critiques sur les mesures qui avaient été prises pour renforcer la sécurité de manière générale, que ce soit l'arsenal juridique, que ce soit le plan Canal. J'entends aussi énormément de critiques à la Chambre parce que vous êtes beaucoup plus nuancés et je m'en réjouis. Mais je sais que votre chef de groupe à la Chambre est totalement virulent contre la présence des militaires en rue, alors que vous avez par exemple un bourgmestre de Charleroi qui demande pour avoir des militaires. Donc je crois que la position du Parti Socialiste n'est pas toujours très claire. Je pense qu'il faut surtout agir.
Mais sur le poste fixe, je pense qu'il y a très peu de débats chez nous. Hein.
Mmh. Ouais, donc,
alors, juste à propos de... Certains considèrent aussi la présence des militaires en rue comme une atteinte aux libertés publiques. Vous avez évoqué quelque part aussi les caméras. Votre avis, Marc-Jean Geysels, est-ce que c'est quelque part aussi une atteinte aux libertés publiques de mettre des militaires dans la rue ?
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ce n'est pas la fonction du militaire d'être en rue avec la police. Ça, je suis d'accord avec les gens qui le trouvent. Mmh. Il faut renforcer encore les services de police. Donc, pour l'instant, c'est presque une emplâtre sur une jambe de bois. C'est quelque chose qui fonctionne qu'à moitié, mais peut-être que ça va un peu aider, ok, dans une situation de crise. Mais j'entends qu'on va avoir des renforts de police, donc je les attends.
Je continue dans les critiques. Est-ce que c'est aussi quelque part, certains disent que c'est un aveu d'échec des politiques de sécurité classiques, le fait d'avoir recours à des militaires aujourd'hui?
Ça me semble évident que si on avait investi correctement et qu'on avait engagé ce qu'il fallait en donnant les moyens qu'il faut à la police, on n'en serait évidemment pas là. Et alors, évidemment, le plan Canal, c'est surtout le plan com de M. Yann Bonne. Hein, parce que quand on voit les dégâts qu'il a fait dans la gestion de l'intérieur, et puis il a sorti le plan Canal avec quelques renforts extrêmement ciblés. Et alors, il faut savoir qui est-ce qu'on envoyait, parce que c'est le fédéral qui envoyait des policiers. Et c'était des policiers qu'ils n'avaient plus envie d'avoir au fédéral et qu'on envoyait comme ça. Et les chefs de corps ne savaient pas toujours les utiliser parfaitement. Il faut aussi
connaître
le dessous des cartes.
Ouais. Hein. Ouais,
non, mais justement, il faut connaître le dessous des cartes. Il faut surtout connaître les rapports d'évaluation. Je pense que, comme tout politique, il faut être bon gestionnaire. Il y a énormément de rapports des différentes zones, d'ailleurs. Je vous invite à lire le rapport de la zone de Bruxelles-Ouest qui était ravi en fait d'avoir ce renfort à ce moment-là grâce au plan Canal, ce renfort policier pour leur zone, et ils ont vraiment regretté en fait qu'on l'arrête. Donc là, je pense qu'on n'aura pas la même grille de lecture sur la présence. Pour revenir au sujet, moi je pense qu'il faut pas faire croire non plus aux gens qu'on les militaires, puisqu'on parle de quelques dizaines, peut-être une capacité maximale de 200 qui sont pas présents tous en même temps, mais c'est pour des missions extrêmement ciblées. Je crois que la mesure est extrêmement bien accueillie par la population, par ailleurs. Et je crois qu'un sujet dont on ne parle pas assez aussi, c'est... Voilà, on peut constater certains échecs en matière de politique sécuritaire, mais on peut surtout constater aussi des échecs en matière de prévention, puisque ce sont deux faces d'une politique. La prévention, en fait, c'est une matière régionale. Et là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour, par exemple, prévenir la délinquance juvénile, pour éviter à des jeunes de tomber dans le deal, de tomber aux mains des narcotrafiquants. Et là, c'est quand même aussi des dizaines de millions d'euros qui ont été éparpillés, ça et là, qui ont servi d'ailleurs à financer toute autre chose au niveau régional. Et on n'a jamais veillé à recentrer en fait ces politiques de prévention sur des priorités claires pour qu'elles aient réellement un effet de levier, un effet dans les quartiers pour ne pas devoir gérer des problèmes de sécurité après. Et là, ça, je pense que c'est très sincèrement un des plus gros échecs de la politique régionale de ces 15 dernières années.
Est-ce que la présence aussi des militaires peut créer, disons, un climat quelque part anxiogène, et en particulier dans certains secteurs à forte densité de population ?
Alors, pour moi, c'est l'insécurité qui est anxiogène, pas la présence des militaires. Je crois même que quand ils étaient présents post-attentat, ça a créé énormément de sympathie, parce que finalement, ça casse un peu cette image du militaire qui va en guerre avec armée jusqu'aux dents. Au contraire, ils étaient là pour vraiment protéger la population. Je rappelle quand même que certains d'entre eux étaient de véritables héros, quand même éviter un attentat, par exemple, à la gare centrale. Éviter aussi un attentat dans le centre-ville. Donc je crois que certains voudraient faire croire que la présence des militaires sera anxiogène. Moi, je pense que c'est plutôt les problèmes de sécurité aujourd'hui qui rendent la capitale anxiogène.
Marc-Jean Geysels, pardon. Est-ce qu'il faut, selon vous, renforcer le dispositif actuel ou au contraire le réduire progressivement en fonction de l'évolution de la situation.
Je crois qu'il faut essayer de rapidement renforcer les effectifs de police à Bruxelles. Mais je suis d'accord qu'il faut travailler sur la prévention et il faut même aller avant la prévention, sur l'éducation. Et quand je vois ce que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait comme dégâts dans l'enseignement, je suis très inquiet pour l'avenir, ça c'est vrai. Et ça, j'entends pas Mme Godefrin s'inquiéter de ça. C'est bien plus grave que les politiques de prévention qui ne marchent pas. C'est que dès le décrochage scolaire, dès les perturbations qu'on va créer dans l'enseignement, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire, ça m'inquiète très fort. Et alors, autre chose qui m'inquiète très fort, c'est toute la politique carcérale. Moi, j'avais fait fermer la prison de Forêt. On m'avait dit, mais quand il y a Aaron qui sera là, de toute façon, le problème sera résolu. Aujourd'hui, on va réinvestir dans Saint-Gilles. Mais je ne sais pas, vous n'êtes peut-être jamais rentré dans Saint-Gilles, mais c'est inhabitable, totalement inhabitable. Et même avec les millions qu'on va injecter, les conditions de vie que vivent les détenus est totalement inadmissible et inhumaine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer énormément de récidivistes. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme mesure au niveau du fédéral? Ça, c'est la plus grosse blague. On nous annonce qu'on va permettre à des gens de sortir, d'être libérés sous bracelet électronique. Seulement, on n'a pas pris contact avant avec les communautés qui gèrent les bracelets électroniques et qui n'en ont pas. Et donc, quand vous discutez avec des agents pénitentiaires, vous dites, ben oui, il y a des détenus qui sortent théoriquement sous bracelet électronique, mais on leur dit, vous reviendrez dans 6 mois, on en aura peut-être un pour vous. Voilà où on en est.
Mmh. Aline Gautrin, est-ce qu'aujourd'hui, il existe, selon vous, des alternatives, disons, crédibles à la présence militaire dans les rues?
Dans l'immédiateté, non. S'ils sont déployés aujourd'hui comme ils vont l'être, c'est parce qu'il y a une situation de crise assez aiguë avec des zones sensibles qui doivent être absolument protégées. Maintenant, il y aura une évaluation dans 3 mois. Il faudra voir, évidemment, en fonction de l'évaluation de la menace, comment est-ce que les choses évoluent. Je crois qu'il n'y a pas de solution magique. Mais l'armée va prêter main forte à la police. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a des policiers aujourd'hui qui se retrouvent vraiment à intervenir face à des dealers qui sont armés jusqu'aux dents avec des armes de guerre. C'est assez impressionnant. On le voit, on voit les vidéos tournées, hein, des fusillades en pleine journée, même parfois dans la rue. Et donc, je crois qu'il y a quand même une guerre liée au narcotrafic qui est en cours aujourd'hui à Bruxelles et qu'on doit aussi se mettre en capacité de lutter efficacement contre cette nouvelle menace et qui n'est pas des moindres. Et là, il y a aussi des opérations coup de poing qui ont été lancées avec la police fédérale, avec les zones de police, avec d'autres services de contrôle pour fermer des lieux qui blanchissent l'argent des mafias. Là, c'est des opérations. Il y a eu beaucoup de filets ces dernières semaines, notamment Place Lemens, qui était devenu aussi totalement infréquentable. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Il n'y a pas de fatalité, mais il est vraiment urgent que tous les niveaux de pouvoir travaillent dans le même sens pour nettoyer Bruxelles des narcotrafiquants.
La présence de l'armée, selon vous, Adeline Godefrin, est tout sauf symbolique?
Oui, je pense que c'est tout sauf symbolique, parce que le but, c'est que ce soit efficace. Je ne pense pas que c'est une mesurette comme ça non plus, où on est juste attaché au symbole visuel. Ça aura un effet concret, et c'est ce qui est recherché aussi. Donc oui, ce n'est pas que le symbole. Et je pense qu'on ne doit pas non plus en faire un symbole négatif, quand on dit, voilà, on a une approche trop sécuritaire. Tout qui vit dans des quartiers confrontés aujourd'hui aux fusillades, par exemple, je pense, est ravi qu'on renforce la sécurité aussi de cette manière-là à Bruxelles.
Alors, encore une dernière question avant de marquer la deuxième pause dans votre émission Cache sur table, sur le versant plutôt politique lié à ce dossier, Marc Zangeisels. S'il y a un message politique derrière tout cela, en déployant des militaires dans une ville?
Bon, le message politique, c'est de dire on prend en compte les problèmes de sécurité et on veut, d'une manière ou d'une autre, renforcer la police dans l'extrême urgence. C'est là que je vois le message. Après, entre nous, juridiquement, c'est un peu aussi du bricolage. Et sur le terrain...
Disons une récupération politique par ça.
Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire... J'ai eu l'occasion une ou deux fois de voir le travail des unités spéciales. Je pense que dans des quartiers qui sont pris par le narcotrafic, la place Lemens, Clémenceau, il faudrait faire intervenir ces unités-là, parce qu'elles ont une formation particulière. Commencer à imaginer que les militaires peuvent intervenir si on tire à l'arme de guerre, j'espère qu'ils ne vont pas riposter, parce que ça, c'est, il faut être
C'est des quartiers extrêmement sensibles où la difficulté, on l'a vu d'ailleurs, je pense que c'est à Grenoble, dans une cité, on a fait le reproche à la police de ne pas être intervenue et la police a expliqué. C'était une bagarre, une tir à l'arme automatique entre des bandes rivales. La police a laissé faire pendant 2 heures parce qu'arriver aurait aggravé la situation. Donc il faut être extrêmement prudent dans le type d'intervention. Moi, ce que j'ai toujours peur, quand on tire à l'arme automatique, c'est que des patrouilles d'intervention arrivent avec un manque d'équipement suffisant, avec un entraînement qui n'est pas toujours adéquat par rapport à la difficulté de l'intervention, et que ce soit pire. Donc je ne sais pas si en plus il y a des militaires qui n'ont même pas de formation pour ce type d'intervention, si ce n'est pas un peu dangereux. Voilà, c'est tout.
Alors, il y a quand même une base juridique, hein. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il y a un protocole d'accord qui a été conclu entre l'intérieur et la défense.
C'est pas une base juridique, ça. Ça, c'est une base juridique si, entre deux intervenants.
Oui, mais qui cadre, il y a un cadre.
De la procédure,
il y a un cadre très clair dans lequel ces militaires peuvent ou ne peuvent pas intervenir. Alors, bien sûr, ils peuvent intervenir pour légitime défense, si la vie d'autrui est en danger. Ça fait vraiment du sens. Je pense que tout le monde sera d'accord. Mais aussi, ils peuvent intervenir uniquement sous contrôle d'un inspecteur de police, d'un officier de police. Et donc là, je pense que la base est très claire. On ne fait pas n'importe quoi. C'est la police qui, finalement, garde la main sur de possibles interventions. Le cadre peut éventuellement faire appel, mais la plupart des missions, de toute façon, sont des missions de surveillance statique, on l'a déjà dit. Et pour le reste, il y a un cadre qui est extrêmement clair, avec un contrôle d'office des officiers de police sur les militaires. Donc, moi, je ne vois pas de risque.
Je note que les syndicats de police et les syndicats de policiers sont extrêmement inquiets sur cette faiblesse du protocole et de base juridique, justement. Hein, je le note simplement.
Voilà, on marque une dernière pause, justement, et on revient pour parler des perspectives et des solutions possibles. À tout de suite.
19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Et on enchaîne avec notre dernière ligne droite de votre Cash sur table avec Aline Godefrin, députée bruxelloise MR, et Marc-Jean Geysels, député EPS. Je reste avec vous, Marc-Jean Geysels. On parlait beaucoup du pour ou contre. Est-ce que vous avez des solutions ou qu'est-ce que vous proposez comme solution pour, disons, garantir la sécurité sans recourir à l'armée? Vous avez parlé tout à l'heure de manque de moyens pour les policiers, mais y a-t-il d'autres pistes à explorer?
Mais je crois qu'il faut d'abord nourrir la police de proximité. Ça, c'est vraiment si on a uniquement le plan sécuritaire. Mais au-delà du plan de sécuritaire, il faut se poser la question sur la lutte contre le narcotrafic. Vous savez, je regardais, parler de 87, je vais remonter encore plus loin. J'ai regardé un film il y a 3 semaines qui s'appelle Razia sur la chenouf. Avec Jean Gabin et Lino Ventura, c'est un film de 1954.
Oui, d'accord.
Je l'ai vu.
Vous regardez ce film, les problèmes de cette époque sont exactement les mêmes d'aujourd'hui. À une différence près, c'est que au lieu d'utiliser des armes de guerre automatiques, on utilisait des 7,65 ou des 9 mm beaucoup moins dangereux. Quand on faisait une affaire avec 40 kilos de cocaïne, c'était beaucoup. Aujourd'hui, on dépasse la tonne, sinon on est un petit joueur. Ça, c'est la différence. Mais les problèmes sont exactement les mêmes. Donc, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, régulariser certains produits, les soumettre à un contrôle de l'État avec une taxe? Finalement, certains disent que la marijuana n'est pas plus mauvaise que la cigarette ou l'alcool. Ça dépend de la manière dont on la consomme.
Les Pays-Bas.
Voilà, mais on pourrait, et le Portugal, Portugal a fait un grand pas là-dedans, on casserait au moins le marché. Parce que souvent, maintenant, d'abord on déploie des investissements malgré tout colossaux, on mobilise nos forces de l'ordre principalement sur des gros dossiers comme ça, et il y a toute une série d'autres nuisances pour lesquelles la police devrait aussi agir, où elle n'est pas toujours disponible, parce qu'elle est mobilisée sur des choses plus importantes. Et je le comprends très bien, c'est pas du tout un reproche à l'égard de nos policiers. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas leur penser? Alors moi, il y a des choses qui m'inquiètent, c'est qu'on est plutôt dans un système un peu puritain, comme ça, où on cache l'alcool, on interdit les publicités sur l'alcool, on cache le tabac de manière totalement excessive, et maintenant, quand vous allez dans un magasin, on doit cacher toutes les marques, etc. Mais vous sortez de là, et sur le coin de la rue, on vend de la marijuana, ou comme on le dit, près de 30% des Bruxellois fumeraient
des cigarettes d'origine totalement clandestine qui sont d'extrêmement mauvaise qualité, encore pire. Donc on essaye, le mieux est l'ennemi du bien, on dit souvent, mais on essaye de régler des problèmes et on en crée d'autres beaucoup plus graves. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait repenser.
Aline Gautrin, une réaction ?
Écoutez, je pense qu'on doit, je vais peut-être être plus conservatrice, même si je suis plus jeune que mon collègue. Je pense qu'on doit quand même être très prudent dans ce qu'on autorise. On voit aujourd'hui que la drogue qui est la plus largement répandue, en tout cas dans la rue, c'est quand même le crack, hein, qu'il y a une montée en puissance du crack. On estime en fait entre 2000 et 5000 consommateurs de crack à Bruxelles. C'est absolument énorme. Et il y a vraiment une progression de la consommation de cette drogue. Et la question de la dépendance est importante. S'il n'y a même pas de produit de substitution en fait, aujourd'hui pour permettre aux personnes de progressivement en fait, décrocher du crack. Donc je pense qu'on doit quand même être très vigilant par rapport à ce qu'on autorise ou ce qu'on n'autorise pas. Je crois qu'il n'y a pas assez sans doute de prévention aussi auprès des jeunes sur les effets de la drogue, même la cocaïne récréative. Voilà, ce sont des drogues qui ont des effets très négatifs sur la santé. Et là, il y a un vrai travail à mener en région bruxelloise qui doit être intensifié, je pense, compte tenu du fait des quantités astronomiques de drogues qui s'écoulent. Vous savez, quand on analyse les eaux, on se rend compte qu'en fait, la consommation a explosé. Donc, il faut se poser aussi les bonnes questions en termes de politique, notamment sur le plan sanitaire, renforcer les politiques de santé.
Sur le plan sanitaire, je suis tout à fait d'accord avec Mme Gautrin. Et donc, on terminera l'émission avec des notes positives quand même, où on est quand même d'accord sur certaines choses, sur la qualité des produits. Mais ça, ce serait quelque chose vraiment à réglementer, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne sert à rien d'interdire ce que l'on ne peut empêcher. Or, manifestement, aujourd'hui, malgré tous les moyens qu'on déploie, on a de plus en plus de consommateurs. Alors, évidemment, un produit comme le crack, ça doit être extrêmement banni. Il faut vraiment lutter parce que ça crée une dépendance incroyable. C'est un produit extrêmement bon marché, mais les gens vont vers le produit extrêmement bon marché. Pourquoi ? Parce que le produit plus cher, il est cher parce qu'il est interdit et parce qu'il y a un marché qui se développe et qui est un marché noir. Si on libéralise d'une façon ou d'une autre, on peut peut-être mieux contrôler les choses et prendre en charge les gens qui sont dépendants pour les aider à sortir de cette dépendance. Et donc, il faut revoir la politique au niveau sanitaire et pas uniquement sécuritaire.
Alors, comme vous l'avez dit, on va terminer cette émission avec des convergences. Il faut investir davantage donc, dans la police locale, les services de renseignement.
Alors, on peut toujours investir plus, on doit aussi réorganiser, comme je pense que j'ai quand même déjà listé les mesures qui font qu'il y aura un réinvestissement dans la sécurité en Belgique et à Bruxelles, on peut s'en réjouir. Moi, je pense qu'il faut surtout une meilleure politique de prévention qui soit beaucoup plus structurelle. Là, on a pu déterminer 5 nouvelles priorités avec le nouveau gouvernement régional et le ministre-président Boris Dies, notamment lutter contre la délinquance juvénile, contre les violences sexistes, le harcèlement de rue. Je pense qu'avec des priorités plus claires, on arrivera à un meilleur résultat. Je pense que parmi les questions qu'on nous pose souvent aussi, c'est la relation entre les jeunes et la police. Il y a énormément aussi de choses à faire. Je pense que c'est pas normal que des figures d'autorité se retrouvent pris dans des guet-apens dans certains quartiers. Et je crois que là, il y a vraiment un lien qui doit être retissé. Mais il y a aussi des difficultés au sein de la police. Voilà, il y a encore eu une étude qui montre qu'il y a des violences aussi commises par les policiers. Là, je pense qu'on doit avoir une tolérance zéro. Donc oui, il y a énormément de choses à faire pour améliorer la sécurité à Bruxelles. Et la prévention est un axe majeur qui n'a pas été suffisamment travaillé. Je cesse de le répéter depuis que je suis députée et présidente de la commission des affaires intérieures. On doit absolument travailler là-dessus.
Marc-Jean Geysel, s'il faut renforcer la coordination entre niveaux de pouvoir pour avoir plus de résultats concrets sur le terrain.
Oui, je pense qu'elle fonctionne déjà, mais elle pourrait encore mieux fonctionner. Mais j'entends que le ministre-président passé n'a pas bien fait son travail au niveau de la prévention et que le nouveau ministre-président a un grand défi. Donc on se reverra dans... Je crois que la tête de liste précédente, la tête de liste des maires, avait dit « En 100 jours, je règle les problèmes pour la sécurité ». Boris Dilliès est plus modeste, il ne l'a pas dit. Mais j'imagine que d'ici 6 mois ou 1 an, on aura l'occasion de faire le bilan et on verra alors si tout ce que Mme Gautrin nous a annoncé se réalise.
Moi, je ne fais pas de fausses promesses, mais j'aime bien travailler en politique en consultant de nombreux acteurs. Et Safe Brussels, qui est quand même l'administration en matière de sécurité pour la région, poser le même constat, c'est-à-dire à un moment donné, on a fait de la prévention une boîte fourre-tout. On fait même de la, des permanences sociales, de l'aide au logement, un tas de choses qui n'ont en fait plus rien, ou du socio-sanitaire, qui n'a plus rien à voir avec la prévention, dans le sens prévenir les problèmes, prévenir les difficultés en matière de sécurité. Et là, il y avait un réel besoin, plutôt que d'avoir 40 actions, 50 priorités, de recentrer en fait les moyens existants pour avoir des résultats. Vous savez, la politique de prévention en matière de sécurité, c'est comme la politique de prévention en matière de santé. Plus vous allez travailler sur un sujet avec une constance et sur un certain nombre d'années, plus vous allez obtenir des résultats. Aujourd'hui, il y a des activités, on sait, qui fonctionnent en matière de prévention. Il faut prendre ce modèle, le dupliquer à l'échelle de la région et avoir une politique qui devient plus structurelle, où on arrête avec les 100 000 appels à projets, à disperser l'argent, où au final, on se rend compte que c'est dommage, tout ce qui a été financé n'a pas porté ses fruits. Donc oui, je pense qu'il y a une méthode qui va être plus rigoureuse et j'espère très sincèrement qu'elle amènera plus de résultats.
Alors une question pour
rendez-vous peut-être... dans un an.
Voilà, rendez-vous dans un an.
Dans
juste...
un an, dans deux, dans trois.
Une dernière question avant de nous quitter qui rejoint un peu votre réponse. Je commence avec vous, Marc-Jean Geysels. Votre vision globale de la sécurité à Bruxelles dans les prochaines années, il faut être tout de même optimiste ?
Moi, je crois qu'il faut toujours rester optimiste. Et dans les situations de crise, c'est là qu'on trouve les meilleures solutions. Bah, il faut être raisonnable. Je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste non plus et dire on va faire ça, on va faire ça. Et surtout pas de venir avec des fausses bonnes idées et jouer aux apprentis sorciers. On a quelque chose aujourd'hui qui fonctionne. On a les six zones de police qui fonctionnent. On a le principe du gold, donc c'est-à-dire que quand il y a un événement, etc., il y a un chef de corps qui pilote tout le monde. Il faut certainement mettre du rouage pour améliorer la collaboration entre les six zones de police. Il faut renforcer la PGF, mais ne faisons pas des grands chambardements qui vont nous faire partir certains policiers inquiets, qui vont créer des tensions entre d'autres. Et donc, voilà, essayons d'être modestes dans ce qu'on va faire plutôt que d'annoncer des grandes choses. Certainement, politiquement, au niveau de la communication, c'est très bon, mais c'est extrêmement dangereux.
Anne Ingoldsfrahn, le mot de la fin.
C'est le mot de la fin aussi de l'optimisme, parce que c'est notre job aussi comme politique de venir avec des solutions. Moi, je vois qu'il y a quand même le déploiement d'une série d'actions depuis ces derniers mois qui vont dans le bon sens. Donc, on ne va pas régler tous les problèmes en quelques mois. Ça, c'est une certitude. Ce serait vraiment une fausse promesse. Mais il y a de l'action. Et donc, on peut parfois ne pas être d'accord avec les actions qui sont prises. Mais au moins, on n'est plus statique. Et je pense qu'il y a eu pas mal de laxisme en matière de sécurité à Bruxelles. Et il y a eu pas mal d'inaction. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un ministre de l'Intérieur, alors libéral, c'est vrai, un ministre-président libéral aussi, qui vont dans le même sens et qui vont renforcer, ça j'en suis convaincue. J'en suis convaincue, travailler en tout cas main dans la main à renforcer la sécurité à Bruxelles.
Voilà, tout de même une note optimiste pour les prochaines années.
Et toujours, c'est toujours un plaisir de débattre avec Mme Godefrain.
Alors, Aline Godefrain, je rappelle que vous êtes députée bruxelloise et maire, et Marc-Jean Geysels, député PS au Parlement bruxellois. Merci d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
Et c'est la fin de Cache sur table. Vous êtes bien sûr à Arbel.